Je ne sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas quoi dire.
Je veux être tatoueuse.
C'est pas ce que je veux faire.
Juste le ton.
À la découverte de métier. Facteur.
Nous sommes sur RVM, Radio Valois-Mussien, 93.7. L'émission à la découverte des métiers, animée par les 3e du collège Jean de la Fontaine. Au micro, Tine Badins. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Priscilla.
Bonjour.
Tamara.
Bonjour.
Maxime.
Bonjour.
Et Stéphane.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons Alain Mallet.
Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis heureux d'être parmi vous.
Bonjour Alain. Alors, vous êtes colonel dans l'armée. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire votre métier ?
Alors, colonel, je suis en retraite maintenant, donc je suis un ancien colonel. Malgré tout, je porte toujours le titre. Mais voilà, donc j'ai fait 32 ans de carrière dans l'armée de terre. J'ai commencé par être dans une école de sous-officier. Ensuite, j'ai fait une école d'officier et j'ai fait différents métiers, surtout orientés dans les télécommunications.
J'aimerais savoir, vous avez commencé votre métier à quel grade ?
Comme je disais, j'ai démarré à l'âge de 17 ans, et ça date des années 70. Et donc là, j'ai intégré sur concours une école de sous-officiers, et le but c'était d'apprendre un métier de sergent. Mais j'étais aussi un métier de sergent technicien. Donc j'avais à l'époque préparé un BEP d'électronique.
D'accord.
Vous vous êtes déjà rendu sur un champ de guerre, un champ de bataille ?
Alors, il faut être prudent sur les appellations, hein, parce que la France n'est plus en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais elle mène des opérations militaires. Donc effectivement, c'est un peu le rôle de tout à chacun de partir en opération, mais en fonction de ses compétences et de son métier. Donc je suis allé sur les théâtres extérieurs.
D'accord.
Quels différents métiers avez-vous fait ?
C'est une bonne question, hein, parce que bon, dans les armées, je dis souvent, bon, c'est une vocation, on parle de métiers militaires, mais c'est derrière 400 métiers différents. Moi, j'ai donc commencé comme jeune sous-officier dépanneur de la radio sur hélicoptère, avant de faire une formation d'officier qui a été assez longue, hein, parce qu'il a fallu que je reprenne mes études, que je fasse mon bac et ainsi de suite. Une fois que j'ai été jeune officier, j'ai travaillé dans les télécommunications et donc j'étais responsable d'un centre de transmission. Ensuite, j'ai été commandant de compagnie, hein, donc là c'est plutôt la partie commandement. Et puis j'ai bifurqué après sur ce qu'on appelle la guerre électronique, hein, les écoutes ou plus banalement les grandes oreilles. Et j'ai terminé ma carrière dans le renseignement en étant à la direction du renseignement militaire, qui se trouve pas loin d'ici d'ailleurs, qui était sur la partie technique sur la base de Creil.
Et dans combien de pays êtes-vous allé ?
Au moins 3 ou 4. J'ai servi en Allemagne, j'ai été en opération en Afrique. Bon, j'ai vu les territoires et les départements d'outre-mer. Bon, je suis allé faire un tour aux États-Unis. Enfin bref, quand on fait ce métier, il faut aimer les voyages, notamment quand on est marin.
Vu qu'il y a des voyages, il y a souvent des contraintes familiales.
Oui. Alors là, c'est ce que je dis souvent vis-à-vis des jeunes qui ont envie de faire ce métier. Il ne faut pas oublier que c'est en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ce n'est pas nous qui décidons de notre emploi du temps. Hein. Donc moi je suis parti en opération pendant 4 mois, je suis marié, j'ai 3 enfants et 8 petits-enfants maintenant. Bah, quand je partais, bah, c'est ma femme qui assumait toute la famille, hein. C'était la logique. En plus, cette notion de en tout temps, en tout lieu, suppose qu'on soit en mesure de partir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être prêt physiquement, être prêt comment dire, techniquement, être prêt intellectuellement. C'est comment dire, la préparation quotidienne prépare justement à être capable de partir.
Vous avez toujours voulu exercer ce métier ?
Non, c'est un peu le hasard de la vie. La vie n'est pas toujours sympa, surtout quand on démarre. Et donc à un moment, vous n'avez pas beaucoup de portes de sortie. C'est pour ça que je suis rentré à l'âge de 17 ans. C'était une occasion de la vie. Alors après, on découvre, et puis on découvre et ça plaît. Et si ça plaît, on en fait son métier.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis votre entrée à l'armée ?
Oui, certainement. Et là, je pourrais faire une petite page d'histoire. Quand je suis rentré dans les années 70, on était encore face au pacte de Varsovie. Il y avait deux oppositions. Il y avait l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre, et symbolisé par le mur de Berlin. Donc c'était l'opposition de grande force et avec des gros bataillons. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire. Il y avait quand même près de 500 000 hommes dans les armées. Bon, avec l'évolution stratégique et politique, les choses ont évolué. L'armée s'est professionnalisée et on est beaucoup plus maintenant dans les interventions extérieures, ponctuelles et professionnelles. Avant, il y avait des gros bataillons avec des jeunes qui faisaient leur service militaire et donc qui étaient peu spécialisés. Maintenant, c'est une armée plus réduite avec beaucoup de spécialistes.
D'accord. Par rapport à ce que vous venez de dire, il faut des qualités spécifiques pour rentrer dans l'armée. On ne peut pas rentrer comme ça.
Non, on ne rentre pas par hasard. D'abord, il faut une condition physique. Le métier militaire, c'est un métier de jeune. Il faut une condition de sportif. Il y avait un minimum d'activité sportive obligatoire. Tous les ans, nous sommes testés sur nos résultats sportifs. Hein. Et donc, il faut qu'on s'entraîne. Une certaine maturité. Il faut avoir une certaine stabilité psychologique. Avant d'être recruté, on passe une visite médicale. Il y a aussi une évaluation psychologique. Ensuite, il faut aussi des compétences académiques. Hein. J'allais dire, si on fait ce métier, d'abord, c'est des matériels de haute technologie. Il faut pas oublier hein. Le char Leclerc, le Rafale. C'est de la haute technologie, hein. Autant pour servir le matériel que pour l'entretenir. La particularité quand même du métier militaire, c'est qu'on a les compétences de base, celles que vous avez quand vous obtenez un bac, quand vous obtenez un bac pro. Et après, vous avez une formation qui est donnée derrière. Bon, d'abord, la formation de base, hein, puis ensuite des formations liées au métier.
Vous avez déjà eu des routines ou des ennuis ?
Quel genre d'ennuis ? Parce que des ennuis, on en a tous. Même dans ma vie personnelle, j'ai des ennuis.
Des ennuis comme un problème avec une arme ou un accident ?
Oui. Et bien, de toute façon, quand on fait ce métier, on est quand même toujours proche du risque. Hein, mais c'est toujours du risque connu et maîtrisé. Il y a toute la problématique d'entretien de matériel dangereux. Et voilà, évidemment, dans un fusil, il faut être du bon côté. Et puis, bon, toute la logique de l'entraînement. Quand on s'entraîne, on prend des risques. Hein. Alors, il y a des situations, des fois, où on est un peu mal à l'aise. Hein. Je me souviens d'une petite anecdote. Quand je faisais mon stage commando, là, à un moment, il fallait passer dans une espèce de buse, vous savez, les gros tuyaux dans les champs, avec des bifurcations. Et je suis resté coincé dans une buse à un moment. Et j'ai vraiment eu l'angoisse de ma vie, là, parce que j'avais peur d'être enterré, là. Bon, et après, il y a les opérations de crise. Mais comment dire, on est formé pour. Pour réagir aux crises, hein, ça fait partie du métier. On est toujours face à la crise, face aux ennuis. D'abord, on se prépare bien, mais une fois qu'on est dedans, ben, on a l'habitude de réagir. Les ennuis arrivent, mais on les surmonte.
Bah, dans ce métier, il n'y a jamais la routine qui s'installe, on ne s'ennuie jamais.
Je ne connais pas la routine.
Voilà.
Je ne connais pas la routine. C'est une très bonne question, parce que ce qui me fait venir vous parler aujourd'hui, c'est ça. C'est l'amour que j'ai eu de mon métier, la satisfaction d'avoir fait cette carrière. Tout ce qui m'a été proposé de différent, j'ai fait des tas de métiers. J'ai fait le clown, moi, à l'armée. Bah, dans certaines situations, on fait l'arbre de Noël des régiments. Et bon, moi, je me sentais une âme de clown. J'ai fait des tas de choses différentes. J'ai fait aussi de la radio à l'armée. J'étais jeune lieutenant et j'avais un centre de transmission qui était un centre pour l'état-major des armées. Et à l'époque, il restait dans cette section une station de radio, une émission radio, qui datait des logiques de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. Les armées faisaient une diffusion radio pour leurs troupes. Donc la routine, ça n'existe pas dans ce métier. Parfois peut-être l'attente, dans certaines situations, dans certaines attentes d'opérations, on attend parfois beaucoup, mais jamais la routine.
Combien de militaires avez-vous eu sous vos ordres ?
Un certain nombre. C'est comme l'histoire du canon. Alors, en fonction de la progression dans la hiérarchie, en fonction des différentes responsabilités, quand on est sergent, on a 10 hommes sous ses ordres. Quand on est commandant de compagnie, on en a 300. Et quand on est chef de corps, on en a 1000. Moi, je me suis arrêté au grade de colonel. Je vais prendre juste un tout petit exemple pour vous expliquer ça. Commandement équivalent de sergent pour un fantassin. Fantassin, vous savez ce que c'est, hein, c'est celui qui marche, hein, c'est celui qui a un fusil. Le char. Bon, le sergent commande 10 hommes pour des fantassins, mais il n'en commande que 3 parce qu'il a un char avec un conducteur, un radiochargeur et lui-même. La notion de nombre d'hommes à aligner est un peu... c'est-à-dire, elle n'est pas rigoureuse. Hein, c'est en fonction... du matériel servi, c'est en fonction du niveau dans la hiérarchie. Voilà, c'est plus les grands bataillons de ce que vous avez pu apprendre pour la Première Guerre mondiale, où là, les régiments d'infanterie s'alignaient les uns derrière les autres. Donc la logique était la même pour tout le monde. Quoi.
Combien il y a de graines dans l'armée ?
Je les ai jamais comptés.
Il y en a trop.
Mais je les ai jamais comptés, mais je peux faire rapidement une présentation de cette hiérarchie. Finalement, il y a 3 grandes catégories dans la hiérarchie militaire. les hommes de troupe, les sous-officiers, les officiers. Il y a une catégorie qui est un peu à part, ce sont les officiers généraux. Alors, dans les hommes de troupe, il y a en gros deux grades, caporal, caporal-chef. Dans les sous-officiers, il y a en gros cinq grades, bon, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major. Dans les officiers subalternes, si on fait une différenciation, il y a trois grades, sous-lieutenant, lieutenant-capitaine. Et dans les officiers supérieurs, il y a trois grades également, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Et après, les officiers généraux. Alors, petite anecdote et petit point particulier, il y a les deux extrémités de la hiérarchie sont une distinction. C'est-à-dire que je n'ai pas évoqué pour les hommes de troupe le première classe et je n'ai pas évoqué pour les généraux le maréchal de France, qui ne sont pas des grades, qui sont juste des distinctions. Alors, je n'ai pas compté combien il y en avait en tout, mais bon, je vous laisse faire l'addition.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens ont l'image de l'armée, l'homme qui va sauver des vies, qui aide des gens. Ma question, c'est est-ce que ce métier est valorisant? Moi, je pense que oui, mais après...
Bon, bah voilà, la réponse est donnée. Voilà. Toujours dans l'esprit de ce métier, il y a une notion un peu de vocation, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on fait ce métier, on est presque appelé à penser qu'on peut donner sa vie pour les autres, quoi, hein, pour défendre son pays. C'est pas forcément la notion de sauver des gens, c'est d'aller au combat pour que les gens derrière puissent vivre en paix. C'est ça qui est important, quoi. Là. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Oui, oui.
Comment devient-on colonel?
Avec un peu de patience. Et donc, pratiquement à chaque catégorie correspond à un niveau académique. Hein. J'allais dire, bon, on est homme de troupe, je vous ai parlé tout à l'heure du bac pro ou du CAP. On est sous-officier avec un BTS, ou, enfin un bac plus 2. Et on est officier, alors je schématise bien sûr, hein, parce qu'il y a des tas de possibilités, il y a du recrutement interne, et on peut être officier en ayant un diplôme d'ingénieur. Il y a des recrutements qui se font directement, hein, donc par exemple si vous avez un bac plus 4 et puis vous tentez l'école de Saint-Cyr pour l'armée de terre pour être officier, donc là c'est un recrutement direct, vous pouvez faire un recrutement semi-direct, c'est ce que moi j'ai fait, hein. J'ai commencé sous-officier, ensuite j'ai tenté le concours d'officier, mais à chaque fois en reprenant le niveau académique nécessaire. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir tenter l'école d'officier, il a fallu que je passe le bac, hein, et que je l'obtienne évidemment. Et ensuite, donc à chaque niveau, alors, il y a une formation, il y a un concours. On passe de niveau en niveau de concours et d'apprentissage. À titre d'exemple, hein, pour parler de la formation continue, quoi, je me souviens que je préparais l'école d'état-major, j'étais déjà pratiquement commandant. Et donc, bah, j'étais père de famille, j'avais trois enfants, on était sur la plage là en Bretagne, et mes enfants étaient dans l'eau, et moi j'étais dans mes bouquins. Voilà. Et moi, je n'ai pas poussé trop loin, parce qu'après, il y a l'école de guerre. À chaque fois, on se remet en cause, on se remet en formation, et on repasse des examens et des diplômes.
Avez-vous déjà eu des stagiaires sous vos ordres ?
Bien sûr, toute personne qui acquiert des compétences, hein, est obligée de repasser en stage, hein, c'est clair. Ça peut être un jeune sous-officier qui veut passer sous-officier supérieur, là, il va apprendre un moment son métier en stage. Oui, des stagiaires, on en a toujours. Ça fait partie du jeu, quoi.
Et conseillez-vous ce métier pour les jeunes ?
Ah oui. Oui, 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 parce que aujourd'hui, si on a envie de vivre quelque chose d'exceptionnel, hors de la routine de la vie qu'on propose actuellement, c'est ce métier qu'il faut faire. D'abord parce qu'on vit dans une ambiance, dans un esprit de corps, ce qu'on appelle l'esprit de corps, c'est-à-dire une camaraderie. Hein, on a confiance les uns dans les autres, on s'entraîne ensemble, on part au combat ensemble, on voit des tas de choses. Évidemment, j'essaye justement de mettre mes petits-enfants, notamment des garçons, de temps en temps je leur montre des trucs, et puis quand ils rentrent dans mon bureau actuellement et qu'ils voient un petit peu tous les souvenirs que je peux avoir de ma carrière, ça attire beaucoup. Hein. Je ne vais pas parler du prestige de l'uniforme, mais maintenant il faut vouloir, hein, il faut aimer, il faut savoir se donner de soi-même. Hein. Mais évidemment, si des jeunes voulaient faire ce métier, je les engage fortement.
Avez-vous des contraintes d'horaire ?
On n'a pas de contraintes d'horaire, on n'a pas d'horaire.
Ah
bon ? Comment dire, on sert 24 heures sur 24. Alors évidemment, il y a des moments de repos, il y a des permissions, hein, parce que les vacances, ça s'appelle des permissions. Comme la logique de servir en tout temps, en tout lieu, on ne se pose pas de questions d'horaire. Quand on fonctionne dans le quotidien d'une unité, d'un régiment ou d'un bureau, évidemment, il y a un peu des horaires comme tout le monde, quoi. Hein. Et à le respect des 35 heures. Hein. Comme on peut faire toute autre chose, et comme parfois des situations de crise imposent qu'il n'y ait plus d'horaire. Donc il n'y a pas d'horaire.
Avez-vous une anecdote particulière assez marquante à nous raconter ?
Oui, j'ai cette anecdote. Quand je vois les gens qui se plaignent sur leur confort, sur leur façon de vivre, je leur dis, bon, ben, quand vous aurez appris à vous laver complètement dans le casque lourd, on est en opération, vous comprendrez le sens de la vie. Et quand on se lave dans son casque lourd, il faut éviter de se laver les pieds avant les dents.
Pourquoi les pieds avant les dents ?
Eh bien, essayez, vous verrez. Essayez de vous laver les dents dans l'eau où vous vous êtes lavé les pieds.
Surtout, ah, d'accord.
Surtout quand on est en campagne.
Et moi, j'ai une question un petit peu hors sujet. Par exemple,
Elle est vraiment hors sujet, là.
Lors de l'armistice, il y a des cérémonies, et j'aimerais savoir, est-ce que vous venez en uniforme et...
Le point particulier, c'est que quand on est en retraite comme moi, c'est qu'on n'a plus le droit de porter l'uniforme. Il faut avoir une autorisation spéciale à demander au délégué départemental pour porter l'uniforme. Donc, je ne porte plus l'uniforme, même pas au fond de mon jardin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis en civil. La question des cérémonies militaires, ça fait partie du quotidien aussi. Des cérémonies militaires, j'en ai fait plusieurs. J'ai souvent défilé le 11 novembre au carrefour de l'armistice, ici. C'était un moment fort. J'ai défilé au 14 juillet à Paris. Et alors, c'est le moment où il y a la cohésion du groupe aussi. C'est le moment où on monte cette cohésion. C'est un moment important pour nous. Cette adhésion que la nation a avec sa force armée, c'est vraiment symbolique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, le métier militaire, c'est tous les souvenirs, c'est toute l'histoire qui remonte. On vit dans l'histoire, le métier militaire, évidemment. Je suis dans l'histoire maintenant. J'ai vu la chute du mur de Berlin. La carrière militaire est marquée d'événements historiques, quoi. Et ça, ça fait partie quand même un petit peu de la fierté qu'on peut avoir de ce métier.
D'accord.
J'ai une autre question, mais elle est aussi hors sujet.
Vous avez beaucoup d'hors sujet, j'ai rien préparé.
Alors, c'est une question sur le Vigipirate. Pour neutraliser un pays tout entier, ça prend beaucoup de temps.
Est-ce que tu veux dire que dans le cadre d'un fait de guerre ou dans le cadre du terrorisme ?
Non, sur le cadre du terroriste.
Pour combattre le terrorisme ?
Oui.
C'est permanent, c'est-à-dire c'est une mission des forces armées. D'abord, elle se prépare dans la logique du renseignement. Moi qui ai terminé ma carrière dans le renseignement, j'en parle terme latin, et passem parabellum, c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. Donc on est en permanence en train d'essayer de préparer la protection. Donc c'est tout le temps. Voilà, on se prépare au cas où.
Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'avez plus le droit de porter l'uniforme parce que vous étiez à la retraite. Mais vraiment plus du tout le droit ? Même pas pour le kiff ?
Non, mais je peux le porter en faisant une demande d'autorisation aux autorités militaires. J'en vois pas l'utilité dans l'immédiat. J'interviens pas mal dans l'établissement scolaire pour parler du métier militaire. Et je trouve que ça a plus de sens pour moi de vous parler de ce métier, de ce qu'on peut en faire, des satisfactions... que de porter l'uniforme. Bon, je l'ai porté 32 ans, l'uniforme. Maintenant, j'ai les cheveux un peu plus longs. Mais bon, quand on porte une coiffure pendant 32 ans, bon, à un moment, on arrête, quoi. J'ai d'autres possibilités de parler de mon métier et d'intervenir. La preuve, c'est que je suis parmi vous aujourd'hui.
Moi, j'ai une autre question hors sujet.
C'est bien, vous avez bien préparé les questions hors sujet.
Il n'y a pas vraiment de grande différence entre la police, la gendarmerie, les pompiers, l'armée. C'est un peu pas tous les mêmes métiers.
Oui, c'est ce qu'on appelle les métiers de la sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes entre les sapeurs-pompiers et les militaires. Je prends pour exemple, est-ce que vous connaissez les quatre armées qui existent dans la défense ?
Non, pas spécialement.
Bon, il y a l'armée de terre, ça vous le savez, dont je vous parle depuis tout à l'heure.
L'armée de l'air.
L'armée de l'air, oui.
L'armée de mer aussi.
La marine, effectivement, et la quatrième.
Pour moi, ça serait, pas les sapeurs-pompiers, mais les services publics.
Non, c'est la gendarmerie.
La gendarmerie.
Bon, voilà, on a un peu inversé l'interview, c'est moi qui vous interview maintenant. Alors, c'est vrai que tous ces métiers sont un peu similaires. La preuve, c'est que la gendarmerie, qui est un métier de sécurité, fait partie des armées, mais fait le même travail que la police dans certaines conditions. D'ailleurs, une répartition plutôt urbaine pour la police et plutôt dans la campagne pour la gendarmerie. Mais donc, il y a effectivement une similitude de ces métiers. Tout à l'heure, j'ai évoqué les 400 métiers dans l'armée, mais il faut bien voir qu'il y a des métiers qui sont parfois des métiers de comptable ou des métiers de cuisinier ou des métiers de maître-chien. Tout le monde n'est pas au combat quand même. Il y a des médecins, il y a un panel de possibilités, quoi.
Ce sera notre dernière question. Quel conseil donneriez-vous pour notre recherche de métier ?
Pour avoir plus d'informations ou pour vous donner un dernier engagement, un dernier conseil ?
Avoir plus d'informations...
Moi, je reprendrai peut-être ce que dit Astérix chez les Romains. Engagez-vous, vous verrez du pays. Le seul conseil que je veux vous dire, c'est que si vous avez l'esprit ouvert, si vous avez envie d'exister, si vous avez envie de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à aller faire ce métier. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de s'engager pour une carrière. C'est-à-dire qu'on peut faire une première expérience, et moi c'est un peu comme ça que j'ai démarré, et voir si ça plaît. Et si ça plaît, ben après on s'éclate et on y va, quoi.
Pour moi, le métier de militaire, c'est beaucoup d'apprentissage.
Pour moi, le métier militaire, c'est l'armée, tout quoi, c'est les soldats.
Pour moi, le métier militaire, c'est vaste. C'est vraiment le respect, l'obéissance, c'est l'uniforme, c'est la camaraderie, c'est toutes ces choses réunies. Et pour moi, l'armée, c'est les services de sécurité, les pompiers. Et il y a vraiment la bonne camaraderie.
C'est ce qu'on appelle l'esprit de corps.
Ouais, voilà.
Pour moi, l'armée, c'est le courage de pas être avec sa famille.
Pour moi, le métier de militaire, c'est ça a l'air super bien, super, super intéressant.
Pour moi, le métier militaire, c'est la générosité et l'enthousiasme.
Le temps de cette émission est terminé. Merci Alain Mallet et merci à Tamara, Stéphane, Maxime et Priscilla.
Ça a été un vrai plaisir.
Au revoir à tous et bonne journée.
Cette émission est le fruit d'un partenariat entre Agir ABCD, le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métiers
sur notre antenne 93.7
ou en podcast sur le site www.radio-valois-mulcien.fr.